Bénassin, il y a des marques dans votre portefeuille qui, effectivement, se développent plus vite en raison de ce nouvel ordre, en quelque sorte, économique. On parlait de cette
Alors,
zone
c'est
Asie.
vrai, mais les marques sont très liées à leur culture et leur histoire. Donc, si je prends Jimmy Choo qui a été lancé cette année, on a été très bon aux États-Unis et en Angleterre parce que la marque y est fortement reconnue. Donc, on a de très bons chiffres sur le marché anglais qui n'a pas été fantastique et le marché américain qui a été meilleur quand même. On a aussi de très bons chiffres. Et après, si on prend Lanvin qui est très fort en Asie, on a des bons chiffres en Asie aussi. Donc là, c'est un peu lié aux marques. Mais globalement, je trouve une fois de plus que hors zone euro, le marché n'est pas mauvais. Maintenant, j'ai beaucoup entendu que 2012 allait être catastrophique. On l'a entendu, vu, écouté. On ne le ressent pas encore, mais il y a quelques petits signes quand même pas très bons qui laisseraient penser que ce qu'on a entendu est vrai. Enfin, j'espère que ça ne le sera pas quand même.
Sur les marques, vous avez l'origine hein, de la société avec notamment Burberry.
Burberry.
L'idée, bien sûr, sur l'avenir, c'est à un moment donné de refaire ce que vous avez fait avec Burberry, ou est-ce que Burberry était en soi exceptionnel hein, en termes de chiffre d'affaires, pour vous, ça a été important, ça reste important.
C'est très difficile de le savoir. Burberry a été exceptionnel parce qu'il y a eu plusieurs éléments conjoints. La marque s'est développée fortement à partir de 1997 et nous, on a repris la licence en 1995. Elle a changé de stratégie en 1997. Ça a été continué en 2004-2005 avec une extension de magasins. Donc on a bénéficié complètement de tout l'effort qui a été fait sur la marque de couture et de mode. Mais sur Jimmy Choo et Montblanc, j'ai l'impression que c'est un peu le cas aussi, parce que Jimmy Choo se développe fortement. Montblanc est une marque très implantée mondialement, très forte, avec une image statutaire haute. Et on a la sensation que Jimmy Choo et Montblanc sont des très forts partants sur le futur. Maintenant, les marques sont là depuis un an seulement, donc c'est un peu tôt.
Mais il y a un potentiel. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller. Alors il y a des marques qui
Il
pourront
faut aller
peut-être pas
le
tout
plus loin
faire.
possible. Il faut aller le plus loin possible du potentiel de la marque. Si le potentiel il est à 100 millions, ben on sait qu'il faudra aller à 100 et tenir. Mais sur Burberry, le potentiel était beaucoup plus haut. On peut évaluer ça 2-3 ans après. Et aussi, c'est très fonction aussi de la marque elle-même et de sa stratégie, qui est indépendante cette fois-ci de la stratégie parfum.
Là, en l'occurrence, l'Europe reste encore un marché important
Oui, très
en
importante,
termes
puisque
de
c'est
vente.
40%. De toute façon, quand vous prenez les 6 pays européens, c'est le premier marché du monde,
Bien
hein,
sûr, bien
avant
sûr.
les États-Unis.
Voilà. Et là aussi, alors j'y rebondirai deux fois. Oui, arrêtons de nous flageller quand même. L'Europe est, en termes agrégés, le problème c'est qu'on a du mal à régler nos problèmes de tuyaux, mais en termes agrégés, la zone qui reste la plus riche du monde et qui présente, les fondamentaux économiques les plus solides. Je rappelle que les États-Unis, c'est 100% de dette publique et un déficit public de 9% par an. Personne ne les embête pour le moment. Alors,
oui, on dit parce que les États-Unis ont le dollar. C'est plus facile, ils
bien
peuvent
entendu,
émettre de
bien
la monnaie.
entendu, ils ont une monnaie crédible, mais surtout, voilà, entre guillemets, quand la Californie est au bord de la faillite, voilà. Les investisseurs ne vont pas attaquer les États-Unis parce qu'ils savent que la Fed se met en face. Point. Voilà, donc là, ils ont répondu à leur problème de liquidité, pas à leur problème de solvabilité, auquel ils devront faire face de toute manière dans les années à venir, à moyen terme. Voilà. Mais attention, la zone Europe est donc à des fondamentaux qui sont plus solides qu'ailleurs. On est à 85% de dette publique, c'est pas bien, mais c'est mieux que les 100% américains ou les 220% japonais. Et on est, allez, grosso, bon an, mal an, autour de 4 à 5% de déficit public, lorsque le Japon est à 9% et les États-Unis, idem. Donc attention, dans un premier temps. Et la deuxième chose, c'est ce qui est remarquable dans les propos de vos invités, c'est que même si on imaginait un gâteau à se partager, parce que c'est ça la réalité du monde des affaires, qui diminuait ou qui stagnait, il y a toujours moyen, entre guillemets, avec des stratégies adaptées, de gagner des parts de marché. Voilà. Ce n'est pas la fin du monde parce que le gâteau arrête de grandir en tant que tel. Simplement, la croissance sera plus discriminante. Les entrepreneurs, les entreprises seront plus discriminées en fonction de leur capacité d'adaptation, d'élaborer des stratégies qui vont leur permettre de gagner des points face à leurs adversaires, voilà, qui aujourd'hui sont internationaux.
Elles ont bien été amenées à s'adapter. Hein. Ça fait quand même 3 ans qu'on tourne en dessous de 3% de croissance du PIB, sur la zone euro. Donc il a bien fallu le faire.
Sur les perspectives, on n'arrive pas très loin de la fin de cette émission. Yves Bouger, sur les perspectives dans votre secteur, hein, donc on parlait de produits effectivement pour la réceptive, pour la réception TV, pour la TNT. Il y a des marchés qui vont avancer. On a parlé de la DSL.
On est, nous, quelque part, finalement, c'est une bonne radiographie de l'activité, vu qu'on a deux types d'activités. On a une activité B2C, on a une activité B2B. Je rappelle qu'on est le leader mondial des splitters ADSL Internet, ce qui est installé dans les centres téléphoniques dans le monde entier. Donc ça, c'est de l'activité B2B qui dépend globalement de la volonté des États d'investir dans leur économie numérique. Donc on est assez révélateur des positions. Aujourd'hui, on est en train d'équiper les États-Unis depuis 2 ans. Curieusement, là, depuis 6 mois, des investissements sont stoppé. Sur l'activité B2C, ce que je constate aujourd'hui, mais je deviens très court-termiste, ce qui n'est pas du tout la culture du groupe et certainement pas la culture d'innovation, mais je deviens très court-termiste parce que je m'aperçois que d'une semaine à l'autre, sur le plan européen, le consommateur est capable de se mettre en marche, de s'arrêter. Donc il est extrêmement difficile aujourd'hui, sur l'univers du B2B, de tracer des perspectives, mis à part être volontariste, mis à part sortir des nouveaux produits extrêmement bien ciblés, ou mis à part gap technologique, comme on a pu vivre avec la TNT, ou comme on vivra certainement avec la radio numérique, qui devrait être un relais de croissance à 3-4 ans. En dehors de cet aspect-là, je pense que nous sommes extrêmement prudentiels, parce que il faut financer les BFR sur les croissances et qu'aujourd'hui, même si nous sommes un groupe extrêmement sain, absolument pas endetté avec un gearing à zéro, il reste que la mère des prudences dans des situations économiques tendues, c'est d'avoir une culture du cash-out. Un cash-out innovation, je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux mamelles de l'entrepreneur.
Philippe Bélassin, sur cette partie parfum, alors de les crises 2008, 2011, on est toujours dans cette crise. Angela Merkel nous en a promis pour 10 ans, en tout cas de croissance faible. Mm-hmm. Vous êtes dans une situation où vous dites on va continuer quand même à investir, il y a des perspectives dans votre secteur de croissance.
Oui, il y a des perspectives de croissance, bien sûr, parce que nouvelle marque, parce que croissance interne, parce que nouveaux produits, parce que quand même nouveaux marchés, quelques nouveaux marchés, ça existe aussi, que le Vietnam, par exemple, s'est beaucoup développé, la Mongolie commence à s'ouvrir aussi à la parfumerie, donc il y a quand même des nouveaux marchés qui existent. Donc oui, moi je reste assez optimiste, mais je pense que ce qu'on a dit au début, c'est que l'ensemble, l'environnement, c'est comme ça depuis 3-4 ans, et à mon avis, ça va le rester longtemps. Donc il faut s'adapter à cet environnement-là et savoir qu'il est très changeant, et que c'est pas seulement, on parlait des changements aussi, mais changements courants aussi en termes de créativité, de marketing, de commercialité, c'est permanent tous les jours. Donc l'entreprise doit s'adapter, elle est obligée de changer... pas sa gouvernance, mais de s'adapter à tout ce qui se passe tous les jours. Et il se passe beaucoup de choses.
Pierre Sabatier, rapidement le mot de conclusion, c'est ça, on va vivre dans ce nouvel environnement plus volatile, on dirait, si on parle en prenant un terme des marchés.
Plus volatile, alors j'aimerais quand même rendre hommage aujourd'hui, on compte trois agents dans nos économies, l'agent public, l'État, les agents privés qui sont les consommateurs et les agents privés qui sont les entreprises. Il est très clair que depuis trois ans, les plus réactifs sont les entreprises. Elles ont mené en fait à terme, je dirais, un désendettement. Aujourd'hui, les entreprises sont saines. Maintenant, voilà, la question c'est est-ce qu'elles seront capables de faire face à des marchés qui seront très erratiques. Maintenant, nos projections, c'est très clairement qu'on aura des marchés qui vont être peu expansifs, donc qui vont grandir, je dirais, à un rythme extrêmement modéré. Et que l'objectif, ça sera d'avoir des stratégies relativement agressives de captation de parts de marché chez le concurrent. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas vivre dans le monde passé, qui était le monde des trois dernières décennies, avec des croissances mondiales qui dépassent allègrement les 3,5%. Si demain, on est à 2,5-3% de croissance mondiale, ça suffit pour nourrir tout le monde. Voilà. Simplement, il faudra être un petit peu meilleur qu'avant et être un peu plus exigeant qu'auparavant.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous donc, dans cette émission. Merci Philippe Bénassar, vous êtes donc le PDG d'Interparfums, Yves Bouget, PDG d'HF Compagnie, et puis Pierre Sabatier, donc cofondateur de PrimeView. Merci à vous de nous avoir suivis.